L'Iran compte d'affirmement l'attentat terroriste survenu au Pakistan. Les États-Unis expédient 45 camions citernes remplis de pétrole syrien volé vers leur base en Irak. Et la CEDEAO fixe un ultimatum d'une semaine à la junte au Niger. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné l'attaque terroriste menée dimanche 30 juillet contre le rassemblement de Jamiat Ulema-e Islamabad-Jaour au Pakistan. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple pakistanais à la suite de l'attaque terroriste perpétrée contre le rassemblement du parti Jamiat Ulema-e Islamabad-Jaour au Pakistan, qui a causé la mort d'au moins 40 personnes, faisant plus de 100 blessés. Le diplomate iranien a affirmé que les terroristes ont de nouveau endeuillé de nombreuses familles dans le pays voisin et frère Pakistan. Au nom du peuple et du gouvernement iranien, Kanani a exprimé sa sympathie aux familles des victimes de l'attaque terroriste et a prié le prompt rétablissement pour les blessés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le renforcement des relations entre l'Iran et l'Irak assurait une sécurité et un développement durable dans la région. Lors d'une rencontre avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Irak, qui s'est tenue dimanche 30 juillet à Téhéran, le ministre iranien a déclaré que Téhéran et Bagdad entretenaient de bonnes relations de coopération tous azimuts parmi leurs voisins. Le ministre iranien a souligné l'importance de renforcer la sécurité dans les zones frontalières, rappelant la nécessité pour les deux pays voisins de mettre en œuvre précisément leur accord de sécurité signé auparavant entre les deux parties. La responsable onusienne a déclaré que l'Iran avait un rôle décisif et constructif dans le développement en Irak. Elle a informé le haut diplomate iranien de son point de vue sur les questions nationales et régionales relatives à l'Irak. Dans la foulée de la poursuite du pillage des gisements pétroliers et des ressources naturelles de la Syrie, l'armée américaine a utilisé séparément des dizaines de pétroliers de camions pour faire passer en contrebande du pétrole brut et des céréales de la province de Arsaké dans le nord-est syrien vers des bases en Irak voisin. L'agence de presse officielle syrienne Sana, citant des sources locales dans la ville d'Al-Yaroubiya, a rapporté qu'un convoi de 45 pétroliers chargés de pétrole volé a quitté la Syrie dimanche via le poste frontière illégal de Mahmoudiya, une route illégale établie pour faire transiter des camions de pétrole entre la Syrie et l'Irak, et s'est dirigé vers les territoires irakiens. Le rapport ajoute qu'un autre convoi des forces américaines, composé de 50 véhicules militaires et de camions frigorifiques, a traversé le poste frontière d'Al-Walid quelques heures plus tard et est entré dans les territoires irakiens. Le convoi contenait une cargaison de récoltes agricoles provenant d'Al-Yaroubiya. Des camions et des pétroliers militaires américains transportent fréquemment des tonnes de céréales et de pétrole brut de la province de Arsaké vers la région semi-autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, dans le cadre d'une contrebande systématique de produits de base. L'armée américaine a depuis longtemps stationné ses forces et son équipement dans le nord-est de la Syrie, sous prétexte que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes de Daesh. Un Palestinien détenu dans une prison israélienne poursuit sa grève de la faim illimitée pour la troisième semaine consécutive en signe de protestation contre la politique de détention administrative d'Israël et d'autres mesures répressives de ce régime. Sadek Kemail, 50 ans, originaire de la ville de Rabatiya en Cisjordanie occupée, a commencé sa grève de la faim il y a 18 jours pour protestation contre la politique de détention administrative du régime sioniste, une sorte d'emprisonnement sans procès ni inculpation, a rapporté dimanche 30 juillet l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Kemail a été arrêté par les forces d'occupation israéliennes en mars de cette année et placé ensuite en détention administrative. Il est le père de Mahmoud Kemail, qui a été tué par les forces du régime d'occupation israélien à Rots occupé en décembre 2020. Les détenus palestiniens ont continuellement recours à des grèves de la faim illimitées pour exprimer leur indignation face aux détentions. Ces derniers mois, des centaines de détenus ont entamé des grèves de la faim et refusent également de se présenter à leurs audiences devant le tribunal militaire depuis le début de 2022. Le boycott comprend les audiences initiales pour faire respecter la soi-disant ordonnance de détention administrative ainsi que les audiences d'appel et sessions ultérieures à la Cour suprême d'Israël. Les prisonniers palestiniens sont placés en détention administrative par le biais de laquelle Israël maintient les détenus sans inculpation jusqu'à 6 mois, une période qui peut être prolongée d'un nombre indéfini de fois. La détention s'effectue sur ordre d'un commandant militaire et en s'appuyant sur ce que le régime israélien décrit comme des preuves secrètes. Certains prisonniers ont été maintenus en détention administrative jusqu'à 11 ans. Il y aurait plus de 7 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les autorités pénitentiaires israéliennes maintiennent les prisonniers palestiniens dans des conditions déplorables sans normes d'hygiène appropriées. Ils sont également soumis à la torture, au harcèlement et à la répression systématique. Le gouvernement danois réfléchit aux moyens légaux pour réduire les manifestations d'hostilité à la religion impliquant des profanations des livres saints à la suite de la réaction de la communauté mondiale qui s'est indignée des actes de sacrilège contre le noble Coran au Danemark. Au cours du mois dernier, les gouvernements suédois et danois ont autorisé la profanation du Saint-Coran, ce qui a entraîné un tollé général et attisé les tensions avec le monde musulman. Un grand nombre de manifestants dans divers pays, dont l'Iran, l'Irak et le Liban, sont descendus dans les rues pour condamner haut et fort l'autorisation accordée par les autorités suédoises et danoises à des rassemblements organisés pour profaner le Saint-Coran. 4 jours après le coup d'État qui a renversé le président nigérian Mohamed Bazoum et fait monter au pouvoir le général Abdourahman Tchiani, commandant de la garde présidentielle, le ton monte encore plus entre le Niger et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (DAO). Réunis en urgence, dimanche 30 juillet au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO ont donné un ultimatum d'une semaine à la junte, n'excluant pas un recours à la force. La communauté a par ailleurs décidé de sanctions financières immédiates. Le chef de l'État tchadien, Mahamad Idriss Déby, est arrivé dimanche à Niamey pour une médiation après avoir rencontré le président nigérian, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO. À Niamey, Mahamad Idriss Déby a rencontré la junte, le président Mohamed Bazoum et l'ancien président Mahamadou Issoufou. La CEDEAO a décidé des sanctions avec effet immédiat. Fermeture des frontières, puis des vols en direction du Niger, plus de transactions commerciales avec le Niger, plus de transactions énergétiques avec le Niger, gel des avoirs bancaires. La CEDEAO veut ainsi imposer un véritable blocus économique pour faire plier les putschistes. Bola Ahmed Tinubu a donné la ligne, à savoir une tolérance zéro contre toute auteur de coup d'État dans la sous-région. Tous les chefs d'État et de gouvernement l'ont suivi. Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO doit se tenir en urgence pour soumettre rapidement un plan d'action. Les dirigeants du putsch ont mis en garde contre toute intervention militaire dans le pays et appelé les citoyens à descendre dans la rue pour les soutenir. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les Nigériens en colère manifestent devant l'ambassade de France à Niamey. En Niger, des milliers de citoyens se sont rassemblés dimanche 30 juillet dans l'après-midi devant l'ambassade de France à Niamey, faisant écho à l'appel des commandants militaires du pays pour protester contre les ingérences françaises dans les affaires nigériennes. Le pays a connu un nouveau coup d'État mercredi après-midi. 2 jours après le coup d'État, la télévision officielle du Niger a annoncé vendredi que le général Abdourahman Tchiani, commandant de la garde présidentielle, avait été nommé nouveau chef du Niger et président du conseil de transition du pays. La décision a suscité la colère des pays européens, en particulier la France. Le ton monte également entre le Niger et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. réunie en urgence dimanche au Nigeria. La CEDEAO a donné un ultimatum d'une semaine à la junte et n'exclut pas un recours à la force. La communauté a par ailleurs décidé de sanctions financières immédiates. Cependant, les dirigeants du putsch au Niger ont mis en garde contre toute intervention militaire dans le pays. Et dans un communiqué, ont appelé les citoyens à descendre dans la rue pour les soutenir. Des milliers de manifestants mobilisés par le mouvement civil M62, opposés à la présence française au Niger et à l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara, se sont rassemblés devant l'ambassade de France, où certains ont voulu entrer. D'autres ont arraché la plaque affichant « Ambassade de France au Niger » avant de la piétiner et de la remplacer par le drapeau nigérien. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable, a réagi l'Élysée. Le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne toléra aucune attaque contre la France et ses intérêts. Le Quai d'Orsay a lui condamné toute violence contre les emprises diplomatiques dont la sécurité relève de la responsabilité de l'État hôte. Réagissant à la décision de la CEDEAO, Abdourahman Tseni, le porte-parole du Conseil militaire du Niger, a déclaré que le but de cette réunion est de convenir d'un plan d'invasion militaire imminente du Niger avec la coopération de plusieurs pays non membres et certains pays occidentaux. Nous voulons rappeler une fois de plus à la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest ou à tout autre aventurier notre détermination à défendre notre pays, a-t-il dit. Le Niger, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est l'un des pays les plus instables au monde. L'histoire du Niger est jalonnée de coups d'État. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu 4. Le premier en avril 1974, contre le président Diori Amani. Le dernier en février 2010, qui a renversé le président Mamadou Tandja. Sans compter les tentatives de putsch nombreuses. Les heures de dimanche, les slogans anti-français et le déploiement de drapeaux russes dans les rues de Niamey rappellent des scènes similaires au Mali et au Burkina Faso voisin, où des juntes ont pris le pouvoir et poussé dehors militaires et diplomates hexagonaux en surfant sur un sentiment anti-français croissant au Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays de la région à subir un coup d'État depuis 2020.